Nous allons aborder et voir aujourd'hui les 40 dernières années de ces 70. Il y a dans la Sainte Écriture, nous l'avons déjà vu, des points très mystérieux et en même temps qu'ils sont mystérieux, des points très éclairants. Et dans le passage de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'on a appelé son status humiliationis, c'est-à-dire l'étape de sa vie qui est dans l'humilité, et son passage à son status exaltationis, c'est-à-dire à l'étape de son exaltation, nous avons des jours, des quantités de jours très mystérieux. Par exemple, il y a les 50 jours qui courent de Pâques à la Pentecôte. Et ces 50 jours, d'ailleurs, sont en deux parties. Il y a d'abord les 40 jours qui vont de Pâques jusqu'à l'Ascension. Et puis il y a les 10 jours qui vont de l'Ascension à Pentecôte. Et ce sont des jours qui sont très mystérieux. Par exemple, les 40 jours durant lesquels Jésus est déjà passé vers l'état de gloire et où cependant il reste avec les apôtres et les disciples. Il n'est pas encore monté au ciel. Alors, il n'est pas monté au ciel et en un sens, il ne devrait pas être sur la terre et cependant, il est encore sur la terre. Il y a là 40 jours très mystérieux. Et quand on médite sur ces 40 jours, quand on essaye de voir tous les textes qui se rapportent à ces 40 jours, on est très étonné. Et cela montre que Jésus est ressuscité. Et au fond, une des explications très simples de ces 40 jours, c'est que Jésus a voulu que les siens fussent totalement persuadés de sa résurrection. Jésus est ressuscité dans la nuit pascale. La nuit pascale, lorsque Jean et Pierre sont entrés dans le tombeau, ils ont vu les bandes qui avaient enveloppé le corps de Jésus affaissées sur place, ce qui entourait sa tête là, et puis ce qui entourait son corps là, tout était à plat. Et d'ailleurs, ça a suffi pour que Jean croie à la réalité de la résurrection. Quand il a vu toutes les bandes qui avaient recouvert le corps de Jésus affaissées sur place, il a su que le Seigneur était ressuscité. Il ne faut pas rentrer dans plus de détails que la Bible ne nous en donne, parce que ce serait inventer des détails. Mais ce n'est pas inventer des détails de constater que Jésus est ressuscité. Il est donc, il a quitté son corps d'humiliation pour revêtir son corps de gloire. Et cependant, il est encore pendant 40 jours sur la terre, il n'est pas encore monté au ciel. Alors, je vous rends attentif simplement au mystère de ces 40 jours. Jésus, d'ailleurs, c'est très curieux, il n'est plus soumis aux lois concernant la terre, et cependant, on peut le voir, on peut le toucher, et bien plus, il va prendre des repas avec les apôtres. Donc il y a 40 jours extrêmement mystérieux où le Seigneur, déjà ressuscité, n'est pas encore passé au ciel, monté à la droite du Père. Et puis alors, il y a les 10 jours entre l'Ascension et Pentecôte. 10 jours, durant lesquels il y a, d'une part, la prière de Jésus dans le ciel, demandant à son Père d'envoyer l'Esprit-Saint. Et correspondant à cette prière céleste de Jésus, il y a la prière terrestre dans la chambre haute des apôtres et des disciples et de quelques femmes, dont Marie, la mère du Seigneur, qui prient pour que le Paraclétos annoncé et promis par Jésus vient. Hein, aussi 10 jours mystérieux, parce que pourquoi cette distance, alors de même qu'on peut penser que les 40 jours entre Pâques et l'Ascension étaient là pour que les apôtres et les disciples soient bien persuadés de la résurrection de Jésus, là, on peut dire que Jésus a voulu associer à la demande qu'il faisait à son Père d'envoyer le Saint-Esprit, il a voulu associer ses apôtres et ses disciples pour qu'ils prient aussi. Alors, au bout de ces 50 jours, il y a eu l'événement de la Pentecôte. L'événement de la Pentecôte, dans la plupart de nos dogmatiques, est à mon sens un peu, pas escamoté, parce qu'aucune dogmatique n'escamote la Pentecôte, mais on ne montre pas assez que, me semble-t-il, que la Pentecôte correspond d'une certaine manière à l'incarnation. Ah, la différence considérable que lors de l'incarnation, la seconde personne de la Trinité est devenue homme, tandis que le Saint-Esprit vient, descend, et il ne descend pas en s'incarnant, mais il descend en assurant l'Église jusqu'à la fin du monde de sa présence et de son pouvoir. Il y a donc une descente du Saint-Esprit le jour de Pentecôte qui correspond à la descente de Jésus-Christ lors de l'incarnation, avec cette différence essentielle, car c'est une différence essentielle, c'est qu'il y a eu incarnation de la seconde personne de la Trinité, tandis qu'il n'y a pas incarnation, bien sûr, du Saint-Esprit, mais il y a une descente du Saint-Esprit. Et alors, pourquoi est-ce que je souligne ce point? C'est que la Pentecôte est irrépétable. L'Église ne peut plus demander à Dieu la descente du Saint-Esprit. Car la descente du Saint-Esprit, à Pentecôte, c'est un fait historique. C'est aussi historique qu'il y a eu descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, qu'il y a eu incarnation du Fils le jour de Noël. Ça ne se répète pas. En grec, on dit, c'est un ephapax, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes, le Christ s'est incarné, le Fils s'est incarné, la seconde personne de la Trinité s'est incarnée, et une fois pour toutes, la troisième personne de la Trinité est descendue. Alors, c'est important parce que très souvent, on entend une prière d'une nouvelle descente du Saint-Esprit. On invoque, alors bien sûr, on peut dire « Viens, Saint-Esprit », mais on ne peut pas demander à l'Esprit Saint de descendre. Il est descendu. Et il sera toujours avec l'Église, selon la promesse de Jésus. « Je vous enverrai un autre paraclet. Je vous enverrai un autre appui, un autre consolateur, un autre guide, un autre avocat, un autre proche de vous et à côté de vous, et il ne quitte pas l'Église. Il ne quitte pas l'Église. Et il y aura toujours sur la terre au moins un reste fidèle de l'Église pour vivre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne quittera jamais l'Église, c'est ce que Jésus l'a promis quand il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus n'est plus avec nous corporellement, visiblement, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel le jour de l'Ascension, et cependant Jésus-Christ, par cet autre lui-même qui est le Saint-Esprit, est toujours avec les siens. Alors là, il y a aussi le mystère du rapport entre le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est très important de bien voir qu'il y a là un très grand mystère, parce que, selon en particulier Calvin, c'est important pour la doctrine des sacrements. C'est parce que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église qu'il peut y avoir à chaque célébration eucharistique une présence réelle de Jésus-Christ, même si cette présence réelle nous rend, si je puis dire, montant au ciel par l'Esprit Saint. Vous savez que dans l'ancienne liturgie antique, il y avait la parole de l'officiant, sursum corda, en haut, les cœurs, et l'assemblée répondait à l'officiant, nous les avons vers le Seigneur. Alors il y a un rapport entre le ciel et la terre qui est assuré par l'Esprit Saint descendu le jour de Pentecôte, et qui fait que l'Église et le fidèle sont ainsi mises en union mystique, mais en union réelle avec le Seigneur qui est au ciel. Et Calvin a des passages formidables dans son petit traité de la Sainte Cène, qui est d'ailleurs un extrait pratiquement de certains chapitres de l'institution. Au fond, Calvin reprend cela. Sur Sum Corda, en haut les cœurs, nous les avons vers le Seigneur. Et pour Calvin, il y a un mystère de l'Eucharistie qui est, si j'ose dire, plus extraordinaire, bien plus extraordinaire encore, que les doctrines par lesquelles on a essayé d'expliciter le mystère, comme la transsubstantiation dans l'Église catholique romaine, ou comme la consubstantiation dans l'Église luthérienne. Nous ne croyons pas à la transsubstantiation, nous ne croyons pas à la consubstantiation, mais c'est la Sainte Cène n'en est pas moins réelle. Je dirais au contraire, nous sommes assurés qu'elle est plus réelle encore, parce que d'une façon que nous ne pouvons pas expliquer, et la transsubstantiation et la consubstantiation sont des sortes d'explications, d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer, quand nous recevons le pain et le vin sur la terre, nous sommes en communion réelle par le Saint-Esprit avec notre Seigneur qui est au ciel. Le ciel sur la terre, ou la terre en communion avec le ciel, il y a là un mystère, mais ce mystère, je le répète, est lié à tout ce que l'on peut voir de mystérieux dans les 50 jours entre Pâques et la Pentecôte, et en particulier dans la réalisation de Pentecôte. C'est pour ça que je crois que dans les églises réformées, ça doit être deux très grandes fêtes. La fête de l'Ascension et la fête de Pentecôte. Parce que nous célébrons là, comme à Noël nous célébrons l'incarnation, à l'Ascension nous célébrons la présence royale de Jésus-Christ à qui tout pouvoir est désormais donné sur la terre comme au ciel. Hein? Mais à la Pentecôte nous célébrons la venue du Saint-Esprit sur l'Église. Et nous sommes assurés de cette présence du Saint-Esprit sur l'Église jusqu'à la fin du monde. Alors, à partir de là, à partir de la Pentecôte, nous avons donc les débuts de l'Église apostolique. Faisons attention, parce que l'Église sera toujours l'Église apostolique, en ce sens qu'elle elle sera toujours l'Église établie sur le fondement des apôtres. Mais là, je désigne par Église apostolique l'Église du temps des apôtres, du vivant des apôtres. C'est-à-dire l'Église apostolique, dans la définition que j'en donne aujourd'hui, c'est l'Église entre Pentecôte et la destruction de Jérusalem. C'est l'Église entre l'an 30 et l'an 70. Il y a un passage important sur ce temps apostolique, c'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 4. Hébreux, chapitre 2, verset 4. Je lis ce verset. Le salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire par les apôtres. Dieu appuyant cette confirmation du message apostolique par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Vous savez que hier, un peu rapidement, je vous ai dit que c'est une erreur qui a existé tout au long de l'histoire de l'Église et qui n'a pas cessé de se répandre à partir de la Réformation, après la Réformation, et malgré les réformateurs, c'est de ne pas voir que le temps apostolique, le temps des années 30 à 70, c'est un temps où le Saint-Esprit, venu sur l'Église le jour de Pentecôte, a communiqué Et je pense que là, il est allusion à ceux qui sont appelés prophètes dans le Nouveau Testament. Vous savez, nous avons vu hier, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il ne s'agit pas des prophètes de l'Ancien Testament, mais il s'agit des prophètes du Nouveau Testament. Et je pense que les prophètes du Nouveau Testament, dont, je dirais, le témoignage était confirmé et, je dirais, supervisé par les apôtres, c'était ceux auxquels Dieu, par son Saint-Esprit, a fait ses communications. Hein ? Il y a eu les communications du Saint-Esprit. Et ces communications du Saint-Esprit, c'était les prophètes qui les transmettaient. Et les apôtres, si j'ose dire, pouvaient trier ce qui était réelle prophétie de vrais prophètes et ce qui pouvait être de fausses prophéties, de faux prophètes. Parce que dans le Nouveau Testament, on voit très bien qu'il y a eu aussi des faux prophètes. Mais les apôtres vérifiaient et authentifiaient les vraies prophéties des vrais prophètes. Donc, les prophètes, j'en donnerai cette définition, les prophètes du Nouveau Testament, ce sont ceux qui, entre la Pentecôte et l'an 70, ont eu des communications du Saint-Esprit, qui, une fois qu'elles étaient adoptées et prises en compte par l'autorité des apôtres, devenaient d'une certaine manière apostoliques. Et alors, c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre que certains écrits du Nouveau Testament n'aient pas été des écrits des apôtres. Il y a des évangiles, comme l'évangile de Luc, qui c'est pas un évangile écrit par un apôtre. Il y a des écrits aussi, comme la lettre aux Hébreux, rien. On peut dire, certains ont voulu penser, pensent que la lettre aux Hébreux est de l'apôtre Saint Paul, mais c'est pas obligé. Nous ne sommes pas obligés de croire que la lettre aux Hébreux est un écrit de Saint Paul. Mais c'est un écrit alors d'un prophète. D'un prophète, c'est-à-dire d'un homme qui a reçu le sceau, le contrôle, et qui s'est placé sous l'autorité des apôtres. Si bien que tout est des apôtres, ce qui est proprement apostolique, et ce qui est du cercle apostolique, à savoir par tel évangéliste ou par tel auteur d'un livre du Nouveau Testament que les apôtres couvrent de leur autorité. Il y a eu des communications du Saint-Esprit. D'ailleurs, certainement, les écrits des apôtres comportent à la fois des éléments qui leur sont fournis par Jésus-Christ, parce qu'ils ont entendu Jésus-Christ, parce qu'ils ont recueilli son enseignement, qui nous transmet des choses. Mais il y a aussi certainement dans les écrits apostoliques des choses que les apôtres ont recueillies de ces prophètes qui recevaient dans le temps apostolique des communications du Saint-Esprit. Bon, enfin, je dis ça un peu rapidement, il faudrait étayer tout ça. Bon, je vous donne une piste, si vous voulez. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que il y a eu des signes, des prodiges, des miracles variés qui étaient là pour appuyer la parole apostolique. Et alors, je dirais, le temps des prophètes qui peuvent être confirmés par les apôtres est passé, mais aussi le temps de signes extraordinaires, de prodiges et de miracles variés qui ont été accomplis pour sceller la parole apostolique, c'est aussi un temps passé. Nous ne pouvons plus maintenant parler de prophètes, même, vous savez, c'est très à la mode, dans un certain protestantisme, on dit, oh, c'est une parole prophétique, oh, il a fait une intervention prophétique. Oh, il faut faire très attention. Très attention. Parce que, vous savez, on ne s'immisce pas prophète, ou on ne s'immisce pas comme ça dans la prophétie, tandis que le temps de la prophétie canonique, c'est-à-dire ayant autorité de parole divine, de communication du Saint-Esprit, c'est un temps qui s'est achevé avec le temps apostolique. Donc vous voyez ce verset d'Hébreux 2, 4, c'est un verset très important parce qu'il ramasse un enseignement qui est un peu diffus dans tout le Nouveau Testament, à savoir que dans le temps apostolique, on est dans un temps très particulier, où le Saint-Esprit est là avec les apôtres, avec les prophètes qui sont confirmés par les apôtres, pour que l'Église puisse avoir tout ce qu'il lui faut dans la tradition apostolique écrite, c'est-à-dire dans les 27 livres qui constituent ce que nous appelons le Nouveau Testament. Bon. L'événement de Pentecôte va ouvrir un temps très particulier. Alors, on peut parler, bien sûr, du temps apostolique, et je viens de le faire. Mais aussi, c'est un temps que le Nouveau Testament appelle soit les derniers temps, soit les derniers jours, et même une fois dans la première épître de Jean, la dernière heure. Là aussi, il faut voir très précisément les textes. Alors, si vous permettez, on va prendre le temps qu'il faut pour voir les textes montrant bien que les derniers temps, les derniers jours et la dernière heure, c'est ce temps particulier qui court entre 30 et 70, c'est-à-dire le temps apostolique. Les derniers jours, c'est le temps apostolique. Alors, je pourrais prendre d'autres textes, mais je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textes, 7 versets qui indiquent cela, et nous allons voir la chose rapidement. Et vous allez voir, au point de vue grammatical, ce qui est intéressant, c'est que ces versets sont à la fois au futur et au présent. C'est intéressant. Alors, je vous dis ces textes successifs. Premier texte, 1 Timothée. Alors, d'abord, les derniers temps. Il y a deux textes, 1 Timothée 4, 1, 3, et Jude 17, 18. Les versets 17, 18 de l'épître de Jude. Alors, 1 Timothée 4, 1, 3. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est-à-dire dans le temps apostolique, quelques-uns abandonneront la foi. C'est un futur. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et alors, dans le même texte, dans la foulée, Paul dit à Timothée, passant au présent, puisque la prophétie s'accomplit et que les derniers temps sont là, ils prescrivent de ne pas se marier. Alors, vous voyez, c'est très curieux. L'Esprit a dit que dans les derniers temps, il y en a qui abandonneront la foi, et Paul, écrivant à Timothée, passant au présent, dit... Voilà, ils prescrivent ceci, cela. La même chose dans Jude 17, 18. Souvenez-vous, dit Jude, des prédictions faites par les apôtres. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs. Tout ça, c'est au futur. Et Jude continue, les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels, dépourvus de l'esprit. Donc, vous voyez, les apôtres, dès le départ, ont annoncé que dans les derniers temps, il y a des gens qui abandonneront la foi. Il y a des apôtres qui ont déjà annoncé que à la fin des temps, il y aura des moqueurs. Et en même temps, Paul, dans sa première à Timothée, et Jude disent, ça y est, les voilà, ils sont là, nous y sommes, nous sommes dans ces derniers temps. Maintenant, pour les derniers jours, alors là, j'ai quatre textes. Premier texte, Actes 2, 16, 17. Citant le prophète Joël, l'auteur des Actes écrit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Ah oui, parmi ces prophètes, il y a eu des femmes. Il y a des femmes qui ont prophétisé. Mais que ça vienne d'hommes ou que ça vienne de femmes, les apôtres ont pris en compte ces prophéties. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et, dans le verset précédent, faisant allusion aux événements qui se passent en ce jour de Pentecôte, qu'est-ce que dit l'auteur du livre des Actes, ou plus exactement, qu'est-ce que dit c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Autrement dit, ce qu'annonçait Joël, vos fils et vos filles prophétiseront, eh bien, au jour de la Pentecôte, on nous dit c'est maintenant que ça se passe. Donc vous voyez, conjonction là aussi du futur et du présent. Deuxième texte pour les derniers jours, 2 Timothée 3, 1, 9. Sache que dans les derniers jours, dit Paul à Timothée, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, il y a toute une suite de choses que je n'ai pas besoin de relire. Et Paul ajoute, il en est parmi eux, voilà le présent, qui s'introduisent dans les maisons. Et toujours, c'est le même système. Ça a été annoncé par les apôtres, mais ça y est, on y est bien dans les derniers jours, puisque, ça se fait. De même, Hébreux 1, 2, Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Ça y est, déjà avec le Christ, On est à l'approche des derniers jours, mais surtout, je pense que là, il est fait allusion. C'est le Fils qui parle au Saint-Esprit, parle, autrement dit, quand nous lisons les apôtres, c'est comme si nous écoutions le Fils. Dernier texte pour les derniers jours, Jacques 5, 3. Dans une apostrophe adressée aux riches, Jacques leur dit, vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Et alors, pour la dernière heure, j'ai pris un seul texte, 1 Jean 2, 18, jeunes enfants, écrit Jean, c'est l'heure dernière. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists, et par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. C'est un présent. Alors, nous trouvons donc devant une situation très particulière. Ça ne se répète pas les derniers jours. Pas plus que ne se répètent les temps apostoliques. D'ailleurs, c'est la même chose. Les derniers jours, les temps apostoliques, c'est exactement la même chose. Ça ne se répète pas. Et nous n'avons donc pas le droit, nous, de faire comme si nous étions encore dans des derniers jours, hein, pour pas du tout, bien ça. Peut-être que nous avons encore 100 000 ans devant nous, nous n'en savons rien, nous ne savons rien. Peut-être nous pouvons n'avoir que 100 ans devant nous, nous n'en savons rien. Nous ne sommes pas, en tout cas il y a une chose que nous pourrons dire, c'est que nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours sont spécifiquement, selon le Nouveau Testament, ces jours du temps apostolique. C'était ça, les derniers temps, les derniers jours et la dernière heure. D'ailleurs, si nous abordons le point du parler miraculeux en langues étrangères, qui a été inauguré le jour de Pentecôte, vous vous souvenez que le jour de Pentecôte, les apôtres, qui ne connaissaient probablement, ils connaissaient peut-être quelques mots latins, ils connaissaient sans doute du grec, parce que la koiné était parlée dans tout le bassin méditerranéen, et puis ils parlaient l'araméen, qui était la langue dérivée de l'hébreu. Bon, mais ils ne parlaient pas du tout les langues perses ou mésopotamiennes ou égyptiennes. Or, le jour de Pentecôte, chacun a entendu les apôtres parler dans cette langue. Il y a eu donc un don de parler dans des langues étrangères, don qui s'est d'ailleurs poursuivi durant les derniers jours, durant le temps apostolique. Or, qu'est-ce que ça signifie? Que signifie ce parler? Or, nous avons une prophétie d'Ésaïe qui nous éclaire à ce sujet. C'est Ésaïe au chapitre 28, les versets 11 à 19. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'une langue étrangère que le Seigneur parlera à ce peuple, au peuple d'Israël. Il leur avait dit, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici la trêve, mais ils n'ont pas voulu écouter. Alors la parole du Seigneur sera pour eux ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils trébuchent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient pris au piège et capturés. C'est pourquoi écoutez la parole du Seigneur, moqueur, vous qui dominez sur le peuple de Jérusalem. Vous avez conclu une alliance avec la mort, vous avez fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons le mensonge pour refuge et la fausseté pour abri, dites-vous. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Je ne vous lis pas tout le texte, on peut aller comme ça jusqu'au verset 19, mais c'est très significatif. Le don miraculeux du parler en des langues étrangères, don inauguré le jour de la Pentecôte et poursuivi durant le temps apostolique, c'est-à-dire durant les derniers temps, était selon Paul, parce que Paul le déclare dans la première aux Corinthiens au chapitre 14, l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe contre Israël rejetant le Christ. Quand le fléau débordant passera, vous serez foulés aux pieds par lui. À ce moment, c'est par des hommes aux lèvres s'exprimant en langues étrangères que le Seigneur parlera à ce peuple. Ils n'ont pas voulu écouter, pour eux la parole du Seigneur sera, etc. Ce que nous venons de lire dans Isaïe. Donc, le parler en langues étrangères est un parler spécifique qui a été fait pour marquer que s'ouvrait dans les derniers temps le procès qu'engager le Seigneur contre son propre peuple, contre le peuple d'Israël. Alors, voyez, nous nous trouvons, selon le Nouveau Testament, devant un temps très particulier. Le temps des apôtres, le temps des prophètes, le temps du parler en langues étrangères, le temps de la fin du procès que le Seigneur a engagé avec son propre peuple. Voilà. Alors, je le répète, c'est une grande erreur, à la fois spirituelle et, je dirais, historique, que de vouloir revenir aux temps apostoliques. On dit quelquefois que les réformateurs ont voulu revenir aux temps apostoliques. Ça n'est pas vrai. Il ne s'agissait pas de revenir aux temps apostoliques. Il s'agissait de revenir à la parole apostolique, à la parole du Christ transmise par les apôtres. Et il s'agissait de revenir à la parole de Dieu, mais pas du tout de revenir au temps apostolique ou de revenir à l'Église apostolique. Parce que le temps de l'Église apostolique est terminé. Les derniers temps, c'est dans le passé. Tout ça, c'est fini. Et ça s'est clos avec la destruction de Jérusalem en 70. Je n'ai pas le temps de prendre tous les détails de la chose. Et je voudrais maintenant dire quelques mots de l'ordre missionnaire. L'Église vit sous deux ordres qui doivent être conjoints dans notre cœur et dans notre esprit. D'abord, avec le second Adam, avec Jésus-Christ, est repris l'ordre culturel du début de la Genèse. Autrement dit, sous la conduite de leur chef, Jésus-Christ, les chrétiens sont appelés à appliquer l'ordre culturel donné au début de la Genèse. Il faut dominer sur tous les règnes subhumains, il faut vraiment poursuivre toutes les recherches auxquelles Dieu a invité le premier Adam, et le premier Adam n'a pas su obéir à cet ordre, mais ça a été repris par la grâce de Dieu après la chute, ça a été repris avec Noé, et c'est repris avec le Nouveau Testament. L'Église doit prendre en compte l'ordre culturel donné dans Genèse 1, d'abord à Adam et ensuite redonné à Noé. Et puis, l'ordre qui va avec, qui est conjoint avec cet ordre culturel, c'est l'ordre missionnaire. Vous savez qu'à la fin de l'évangile de Matthieu, tout à la fin de l'évangile sur Matthieu, juste avant son ascension, Jésus donne une affirmation extraordinaire. Parce que là, il parle comme si c'était déjà arrivé, mais ça va arriver. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En réalité, je dirais, Jésus y est, parce qu'il est juste avant l'ascension, et c'est avec l'ascension qu'il va être intronisé à la droite de Dieu, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais enfin, c'est comme s'il y était. Voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là, il faut souligner sur la terre. Et alors là, c'est la fameuse objection que l'on fait quelquefois aux réformés, que nous avons tous entendu, certainement. Jésus a dit que son règne, que son pouvoir n'était pas de ce monde. Bien entendu que ce n'est pas de ce monde. C'est la préposition « ek » en grec qui est là employée. Le règne de Dieu n'est pas de ce monde, puisqu'il est du ciel où Jésus règne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas sur la terre. Jésus règne sur la terre comme au ciel. Le règne du prétendu prince de ce monde, c'est fini ça. Et l'Église ne doit pas faire et vivre et aller de l'avant, d'ailleurs comment pourrait-elle aller de l'avant, si elle pense que le pouvoir sur la terre appartient au prétendu prince de ce monde. Non, le pouvoir sur la terre comme au ciel, il est à Jésus-Christ. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alors là aussi c'est important parce que c'est repris dans la prière dominicale. Vous savez que quelquefois on attache seulement à la troisième expression « sur la terre comme au ciel ». Je pense que ça n'est pas juste. Jésus dit, enfin on pourrait traduire, que sur la terre comme au ciel, ton nom soit sanctifié, ta volonté soit faite, ton règne vienne. Mais tandis qu'on rattache seulement à l'un des trois l'expression sur la terre comme au ciel. Non. D'ailleurs, ça ne peut pas être autrement. Le nom de Dieu est parfaitement sanctifié dans le ciel. La volonté de Dieu est parfaitement faite dans le ciel. Mais il faut que sur la terre, l'Église et les chrétiens soient vraiment de ceux qui sanctifient le nom de Dieu, qui développent le règne de Dieu par leur propre obéissance, à commencer bien sûr par leur propre obéissance, et qui exécutent la volonté que Dieu exprime dans sa loi. Donc, le sur la terre qui est là rejoint le sur la terre que nous disons tous les jours dans le Notre Père. Alors, après cette déclaration, peut venir l'ordre précis, le commandement. Allez donc. Alors là, nous avons un petit problème de traduction sur lequel je vais m'arrêter rapidement. En grec, vous avez un verbe, matheteo, qui correspond très exactement au substantif mathetes. Mathetes, c'est le disciple. Et matheteo, en réalité, nous devrions avoir en français, puisque nous sommes ici en parlant français, mais il faudrait faire la même chose pour les autres langues, il n'y a pas de verbe discipler en français, il n'existe pas. Mais au fond, Jésus dit discipler toutes les nations. Quand nous disons faites des disciples de toutes les nations, ce n'est pas une traduction rigoureuse. La traduction rigoureuse, si le verbe discipler existait, ce serait de dire discipler toutes les nations. Alors, si l'on traduit « faites des disciples de toutes les nations », ça ne répond pas à ce qu'a dit Jésus. Bien sûr, c'est compris dans ce qu'a dit Jésus. Mais il faut traduire, me semble-t-il, puisqu'on n'a pas le verbe « discipler », « faites disciples toutes les nations ». C'est important, parce que bien souvent, on ne voit que la portée individuelle et personnelle de l'ordre missionnaire. Il s'agit que des hommes, des femmes, des enfants soient gagnés à Jésus-Christ et deviennent disciples de Jésus-Christ. C'est pas faux de dire ça. Je dirais même que c'est capital. Et c'est comme ça que ça se fait. On le voit bien dans le Nouveau Testament. C'est parce que des hommes, des femmes, des enfants ont été gagnés à Jésus-Christ par la prédication de la parole de Dieu que l'Église s'est développée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect sociétaire, un aspect social, un aspect communautaire. Et alors, ça se traduit par le fait, par exemple, que dans le Nouveau Testament, quand un homme ou une femme chef de famille deviennent chrétiens, toute la maison est baptisée. C'est-à-dire pas seulement les enfants, s'il y a des enfants, mais je veux dire les serviteurs, qu'il y a tous ceux qui sont dans la maison, moi, bien sûr, qui s'y oppose, c'est la maison qui devient chrétienne. Mais Jésus va plus loin qu'une maison. Il dit, disciplez, faites disciples les nations. Faites disciples les nations. Alors, j'attire votre attention là-dessus, c'est que si nous prenons le texte grec, il ne s'agit pas seulement de faire des disciples des nations, encore que ce soit compris dans le commandement, mais il s'agit de discipler les nations. Il s'agit de discipler les nations. Et c'est pourquoi on peut poser, bien sûr, à des individus, à des personnes, la question, hein, je peux me tourner vers vous, hein, et puis vous demander, qu'as-tu fait de ton baptême ? Qu'as-tu fait de ton baptême ? Je peux le dire à chacun de vous, vous avez tous été baptisés, hein. Qu'as-tu fait de ton baptême ? Mais on peut demander, par exemple, à une nation comme la France, qu'as-tu fait de ton baptême ? Parce que c'est vrai que pendant des siècles, la France a été une nation chrétienne. Et Il faut bien voir ce que ça veut dire. Quand on dit une nation chrétienne, ça ne veut pas du tout dire une nation parfaite. D'ailleurs, les chrétiens ne sont pas des individus parfaits ou des personnes parfaites. Alors, la question « Qu'as-tu fait de ton baptême ?» je peux la poser à chacun de vous. Mais je peux la poser à mon pays. Parce que c'est un pays qui a été chrétien. Et on pourrait poser la question aux Pays-Bas. On pourrait poser la question à l'Angleterre. On pourrait poser la question « Qu'as-tu fait de ton baptême ?» Et j'attire votre attention là-dessus parce que c'est important dans le témoignage que l'Église doit apporter et dans, je dirais, la prédication de l'Église. Notre prédication est trop exclusivement personnelle et individualiste. Comme si il ne s'agissait que de la conversion d'individus. Et alors, bien, faites attention, hein, je ne porte pas la moindre atteinte à cette nécessité-là. Bien sûr, il faut que des individus, des personnes, des hommes, des femmes, des enfants se convertissent. Mais il faut que les nations soient disciplées, soient baptisées et soient enseignées. Vous voyez ? Alors, il y a là un aspect, je dirais qu'on a un peu manqué. Et alors là, ce serait intéressant de voir que nous avons bibliquement des allusions dans l'Ancien Testament au baptême des nations. Au baptême des nations. C'est un fait que il est dit que les nations sont, alors là je vous cite un cas, la prophétie d'Isaïe en chapitre 52 verset 13-15. Il s'agit du serviteur du Seigneur, c'est-à-dire du Messie. Après son ascension, qu'est-ce qu'il fera d'après la prophétie d'Isaïe? Il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Hein? Voilà un texte très, très net. Mais ce n'est pas le seul texte. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce que nous voyons? C'est que les nations viennent et les rois des nations, c'est-à-dire les chefs des nations, les gouvernements des nations, viennent, entrent dans la Jérusalem céleste. Alors là, je viens de prononcer un mot dangereux, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, alors souvent, on pense et on voit simplement la fin du monde, et on entend la Jérusalem qui descendra du ciel comme quelque chose qui est à venir. Non. Relisez Galates 4, 26. Vous verrez qu'il est question de la Jérusalem d'en haut, notre mère. Dans Hébreux 12, 22, la Jérusalem céleste dont il est question, c'est celle dont les baptisés sont citoyens. Dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 20, cette Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, ou dans Apocalypse 3, 12, la Jérusalem sainte qui a pour fondement les 12 apôtres de l'agneau. Mais c'est l'Église. C'est l'Église. Et à certains égards, on peut dire, mais là, il faudrait toute une étude exégétique, mais là aussi, peut-être que tel d'entre vous peut en faire un sujet de mémoire. Au fond, la Jérusalem céleste est descendue du ciel le jour de la Pentecôte. C'est la Jérusalem céleste, pourquoi? Parce que le roi de cette Jérusalem céleste, c'est Jésus-Christ, depuis son ascension. Mais depuis la Pentecôte, la Jérusalem céleste, c'est-à-dire dont Jésus-Christ est le roi, est descendu sur la terre. Et nous en sommes les citoyens. C'est la Jérusalem dont, qui est notre mère. Alors là aussi, vous avez eu des études. Comment, plein d'entre vous s'en souvient, comment s'appelle ce professeur belge?
Léopold Schumer.
Hein? Oui, Schumer. Oui. Schumer, qui est professeur à la faculté de théologie de Bruxelles, hein, c'est ça, a fait des articles et des conférences sur ce point précis. Sur ce point précis. Et c'est très fouillé, les travaux de Schumer sont très fouillés à cet égard. Et il montre que pour Calvin, c'était comme ça. Calvin a des pages disant que l'Église est notre mère. Et cette Église, notre mère, c'est pas autre chose que la Jérusalem céleste. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas confondre cette Jérusalem céleste dont Jésus-Christ est le roi avec les Jérusalem terrestres dont David, l'ancêtre de Jésus, avait été le roi. C'est plus le temps de la Jérusalem terrestre, d'ailleurs. Ça a été radical, en 70, c'est terminé. Elle a été détruite, la Jérusalem terrestre. Mais nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste, ou mieux que ça, nous sommes enfants de cette Jérusalem céleste qui est notre mère. Et enfin, c'est par là que je terminerai pour ce matin. Je vois que c'est difficile d'arriver à caser ce que j'ai préparé dans le peu de temps dont je dispose. Je voudrais m'arrêter maintenant sur ces temps apostoliques dont nous venons déjà de parler. Il y a eu, durant le temps apostolique, l'action des 13 apôtres. Des 13 apôtres, pourquoi je dis 13 ? C'est parce que il y avait un apôtre surnuméraire, qui était l'apôtre Paul. Au fond, si vous voulez, les apôtres sont 12 plus 1, comme les 3 mousquetaires étaient 3 plus 4. Les 3 mousquetaires étaient 4. Et les 12 apôtres étaient 13. Parce qu'en plus des 12 apôtres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël et qui marquaient la continuité entre l'ancien Israël et l'Église, il y a eu l'apôtre surnuméraire, c'est-à-dire l'apôtre en surnombre, qui était Paul, et c'est par le ministère principal de cet apôtre surnuméraire que l'Église des nations a été greffée sur l'olivier. Les gens des nations vont être greffés sur l'Église. Alors là, il y a une certaine discontinuité parce qu'apparaît une équation nouvelle. Nation plus juif égale 1. Dans l'Église, c'est l'équation de l'Église. Ça. Juif plus nation égale 1. Alors, on entre dans cette équation et c'est l'apôtre sur le mer. Mais, je reviens, il y a 3 apôtres parmi les 13 ou parmi les 12 plus 1, qui ont joué un rôle spécifique dans le temps apostolique. Premier apôtre, c'est l'apôtre Saint-Pierre. Pierre domine toute la première partie du livre des Actes. Il domine toute la première partie. D'ailleurs, c'est à lui que Jésus a dit « Paix mon Église, paix mes brebis, paix mes agneaux hein, ». C'est ce qui nous est indiqué à la fin de l'Évangile. Alors, il y a Pierre. C'est la figure dominante d'un premier moment du temps apostolique. Il est d'ailleurs à Jérusalem au départ, et en tout cas, il est à Jérusalem jusque à la décapitation de Jacques, le frère de Jean. Ce récit de la décapitation de Jacques, de l'apôtre Jacques, frère de Jean, nous est raconté au chapitre 12 du livre des Actes. Et alors, Pierre, après avoir conduit l'église mère de Jérusalem, en tout cas jusqu'à la lapidation de Jacques, et on peut même penser peut-être seulement jusqu'à la mort du premier martyr, qui est Étienne, hein, c'est quand même, bien qu'apôtre des circoncis, celui qui a été le premier à baptiser des incirconcis, dont le centurion de la cohorte dite italienne, Cornelius, Corneille. En 49, Pierre prend part au concile de Jérusalem avec d'autres apôtres, dont Paul et des anciens, et c'est sous la présidence de Jacques, qui avait succédé à Pierre à la tête de l'église mère de Jérusalem. Et vers une date imprécise, peut-être vers 60, mais nous n'en savons rien, c'est très discuté, il faut lire les travaux d'Oscar Kuhlmann à ce sujet. Pierre se rend à Rome, d'où il écrivit au moins l'une des 2 lettres de lui que nous avons dans le Nouveau Testament. Et comme Jésus le lui avait annoncé en Jean 21, il mourut martyr, crucifié, la tête en bas, en 67, durant la persécution ordonnée par Néron après l'incendie de Rome. Alors je vous rappelle la date de l'incendie de Rome, 64. À partir de l'incendie de Rome, d'ailleurs, s'ouvre la dernière septaine d'années de l'ère ancienne, hein, de la fin totale de l'ère ancienne. Alors, il suffit d'attardir. 64, incendie de Rome. 67, mort de Pierre, martyr à Rome. Et alors, c'est là. D'abord, au début du livre des Actes, j'allais dire, j'exagère un peu, il n'y en a que pour Pierre. Ce serait exagéré de dire ça. Mais je veux dire, il est sûr que la grande figure du premier temps, dans le temps apostolique, c'est l'apôtre Pierre. Ensuite, arrive l'apôtre Paul. Lui, il couvre le livre des Actes, on peut dire, du chapitre 13 jusqu'à la fin du livre des Actes. Hein, il y a 28 chapitres, si je me souviens bien, dans le livre des Actes. Eh bien, c'est Paul qui couvre toute cette période, qui se finira en même temps que celle de Pierre, puisque si Pierre fut crucifié la tête en bas en 67, la même année 67, l'apôtre Paul, lui, fut décapité. Pourquoi il fut décapité? C'est parce que le supplice réservé aux citoyens romains condamnés à mort, c'était la décapitation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que les Romains qui étaient décapités. Enfin, disons qu'on comprend que Pierre ait été crucifié et que Paul ait été décapité. D'ailleurs, le livre des Actes s'achève pratiquement et doit dater à peu près de l'année 62. En tout cas, le livre des Actes a été écrit avant l'incendie de Rome par Néron en 64 et a été écrit a fortiori avant la mort de Pierre et de Paul, à laquelle aucune allusion n'est faite. Donc si vous voulez, vous avez, d'ailleurs c'est l'opinion de Robinson dans son livre sur la datation du Nouveau Testament, c'est aussi à quoi arrive Wenham dans son livre sur le Nouveau Testament. Il parle pas seulement des dates des évangiles synoptiques, mais aussi des dates d'autres écrits, dont le livre des Actes. Donc on peut dire, le livre des Actes s'arrête en 62, a dû être écrit vers 62, donc 2 ans avant l'incendie de Rome, et 5 ans avant la crucifixion de Pierre et la décapitation de Paul. Donc, là aussi, on voit très bien toute la place qu'occupe Paul dans ce second temps des derniers temps. Dans le premier temps des derniers temps, c'est Pierre. Dans le second temps des derniers temps, c'est Paul, la grande figure. Et dans le troisième temps, c'est-à-dire à partir de la mort de Pierre et de Paul, mais même sans doute un peu avant, à partir de 62, avant l'incendie de Rome, jusqu'en 70, l'apôtre qui domine la scène, ça va être Saint Jean. Et avec l'Apocalypse, qui est un livre, là j'ai vu, là, il y avait le bouquin de Chilton là, sur la table, il faut lire le livre de Chilton pour bien saisir la chose. Donc se sont succédés, d'une certaine manière. Attention, je ne dis pas comme autorité sur l'Église. Je ne dis pas que Pierre a été le conducteur de l'Église, puis ensuite Paul le conducteur de l'Église, puis que Jean. Ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les figures apostoliques dominantes ont été successivement, ça ne veut pas dire dominantes au sens hiérarchique, au sens... Non, je dirais, les figures qui dominent, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est très net, c'est Pierre d'abord, puis c'est Paul ensuite, et je dirais, après la mort des apôtres Pierre et Paul, c'est l'apôtre Jean qui va dominer la situation, et d'où aussi l'importance du livre de l'Apocalypse à cette époque. Pendant ce temps, il y a eu une situation, c'est d'ailleurs jusqu'en 64, jusqu'à l'incendie de Rome par Néron, c'est-à-dire pendant les années 30 à 64, la persécution a été chose des Juifs. Les persécuteurs de l'Église ont été des Juifs. Tandis qu'à partir de 64, c'est-à-dire dans la partie sur laquelle la figure de l'apôtre Jean domine, alors là, ça bascule. Pourquoi ? C'est parce que on va avoir l'apparition de la bête. La bête, Néron, au chiffre 666. Et la persécution va devenir une persécution par l'État romain, par l'empereur de Rome. Et pratiquement, ça se poursuivra, non pas d'une façon continue, mais ça va durer pratiquement jusqu'à l'édit de Constantin le Grand, édit connu sous le nom d'édit de Mélan, et qui date de 313. Donc, voilà, il va s'ouvrir une période, mais déjà dans le temps apostolique, il va y avoir donc ces sept dernières années, cette dernière semaine du temps, ou cette dernière septaine plutôt, du temps apostolique, durant lesquelles la persécution passe des Juifs à Rome. Et d'ailleurs, là aussi, on pourrait dire que c'est très curieux, mais si vous voulez, la ville centrale de l'Église, jusque vers 60-62, c'est Jérusalem. Tandis que la ville qui va devenir la ville centrale, ça va être Rome. On a comparé quelquefois le passage de Paul de Jérusalem à Rome comme parallèle au mouvement de l'Énéide de Virgile, où il y a aussi un mouvement analogue. Mais si vous voulez, il y a un passage. Le livre des Actes, si vous voulez, nous montre très bien. Dans le livre des Actes, on part de Jérusalem et on aboutit à Rome. Voilà. Et c'est une transposition formidable, puisqu'on passe de la capitale des Juifs, de la capitale d'Israël, à la capitale de l'Empire, à la capitale des nations de l'œcuménée, c'est-à-dire des nations de l'Empire romain. Hein? On passe. Mais ça a été volontaire. Ça a été volontaire de la part des apôtres, et en particulier de l'apôtre Paul. Paul a voulu que l'Évangile soit planté dans la capitale de l'Empire, parce qu'il ne s'agissait plus d'une alliance avec le peuple d'Israël seulement, mais d'une alliance de grâce qui passait à toutes les nations. Alors, juif contre juif, au départ. Les juifs contre juifs, puisque au tout départ, dans les années qui ont immédiatement suivi l'année 30, les chrétiens sont juifs. L'Église chrétienne est juive. Et même l'Église chrétienne continue à pratiquer la loi juive sur bien des points. Par exemple, il y a encore des chrétiens qui sont circoncis. Les chrétiens se rendent le jour du sabbat au temple. Les sacrificateurs qui sont devenus chrétiens, parce que le livre des Actes mentionne qu'un bon nombre de sacrificateurs devinrent chrétiens, ont continué leur office au temple. On est dans une situation où l'ère ancienne continue et où cependant l'ère nouvelle a commencé. Les deux ères de l'Alliance, l'ancienne et la nouvelle, se sont chevauchées au temps apostolique, ou tout au moins pendant les premières années du temps apostolique. Et puis alors, évidemment, avec l'événement de 70, ce sera terminé. Mais je dirais, quand on lit d'ailleurs le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il est encore question du temple comme du lieu saint, il est encore question de Jérusalem comme de la ville sainte. On est encore dans une situation où l'Église est juive, à 95%, l'Église est juive au départ. Voilà, alors j'ai terminé. Vous avez noté 10 minutes sur vos montres pendant lesquelles vous allez faire ce que vous voulez, et puis nous nous retrouvons pour l'entrée.
Oui, j'aimerais bien revenir un peu sur Matthieu 24 d'hier. Je l'ai relu ce matin,
oui.
Et bon, j'étais intéressé par votre interprétation, mais il y a une idée qui m'est venue. Les tremblements de terre, les guerres, les faux messies, les faux prophètes, on a l'impression qu'il y en a une quantité quand même assez importante. Et je pose la question, est-ce que 30, 40 ans des dernières moitiés de 70 ans, est-ce que c'est une période suffisante pour qu'il y ait eu autant de famines, de tremblements de terre, de guerres, de bruits de guerre, de faux messies, de faux prophètes, etc. Comme il semble qu'il y en a beaucoup dans Matthieu 24.
Voilà. Alors, je ne vais pas répondre à votre question. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vais voir en commençant mon cours cet après-midi. Vous voyez, je suis au point où, voilà, l'accomplissement des 7 signes annonciateurs. 1, faux Christ. 2, guerre et bruit de guerre. 3, bon, autrement dit, je répondrai cet après-midi à votre question. Alors, ce n'est pas que j'esquive votre question, mais c'est prévu qu'il va y avoir, au fond, l'accomplissement de la prophétie du Christ.
Alors, moi, j'ai une question sur, d'une manière générale, parce que j'ai lu Chilton en entier, là, et il y a quelque chose, bon, qui...
Qu'est-ce que vous avez lu, là ?
Par le Darius Story.
Ah, vous l'avez fini ?
Ah, moi, je l'ai lu, oui, puis j'ai un peu feuilleté Apocalypse, mais il reprend beaucoup de choses. Ce que quand, à la fin du livre... J'étais un peu désorienté par rapport à ce qui reste dans la Bible, nous informant sur la fin, je veux dire la fin. Mmh. Et bon, dans les thèses qu'il a fait à la fin, dans le résumé, bon, il y a quelques petites choses. Mais sur le changement, on a l'impression que finalement, cette fin... c'est simplement la continuité de maintenant. Et je veux dire qu'il n'y aura pas de réel changement et que finalement cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux ne sont pas si nouveaux que ça, etc. Et ça, bon, je voulais un peu, c'est un peu une impression, hein, c'est pas du tout théologique. Quoi, mais... Donc, je voulais un peu votre éclairage, ou, je sais pas, par rapport à ce genre de choses. Est-ce que vous avez reçu ressenti la même chose au début, ou est-ce qu'il y a des choses qui concernent la fin auxquelles on ne fait jamais attention? Ça se peut aussi.
Alors, je vais aussi aborder cette question dans la suite du cours, mais je voudrais tout de suite vous donner quand même une réflexion. Je pense qu'il y a deux eschatologies distinctes dans le Nouveau Testament. Il y a une première eschatologie, c'est celle de Matthieu 24, 1 à 35, et des passages parallèles dans Marc 13 et dans Luc 21, hein, il y a une première eschatologie, qui est l'eschatologie de la fin d'une ère, de la fin d'un monde. Et puis alors, il y a une seconde eschatologie, sur laquelle le Nouveau Testament, effectivement, ne nous dit pas grand-chose. Au fond, si vous prenez... Les œuvres dogmatiques, je pense à Bavinck, je pense à Hodge, je pense, si vous voulez, les dogmatiques réformées, finalement, ne nous disent pas grand-chose sur la grande eschatologie ou l'eschatologie de la fin. Hein? Qu'est-ce que nous savons ? Nous avons des points. Retour en gloire de Jésus-Christ. Résurrection des morts. Jugement dernier, transfiguration universelle, ou rétablissement de toutes choses, comme vous voulez. Bon, voilà. Mais on ne nous détaille rien là-dessus. Je veux dire, finalement, moi je suis toujours frappé de voir combien l'eschatologie ultime... Et alors, qu'est-ce qui est développé très souvent ? Ce sera l'eschatologie personnelle, à savoir notre mort. Vous voyez, la question de l'autre mort. On posera la question aussi de l'intervalle entre la mort et la résurrection. Voilà. Mais Dieu semble vraiment ne pas avoir révélé beaucoup. Et il nous donne des points forts, ceux que je viens d'indiquer, entre autres, mais il ne nous a pas dit grand-chose. Et alors, ce qui me frappe, c'est que, alors qu'il y a une accumulation de signes à discerner en ce qui concerne la première eschatologie, il ne nous est donné aucun signe de la seconde eschatologie, puisque la seconde eschatologie arrivera... on ne pourra pas dire « Ah, ça y est !» Puisqu'il n'y a aucun signe, tandis que de la première eschatologie, il faudra qu'on dise « Ça y est, la preuve !» C'est que les chrétiens qui auront bien entendu les prophéties de Jésus sur la fin de l'ère ancienne prendront leur disposition pour quitter Jérusalem à temps, pour ne pas être surpris. Et alors les signes s'accumulant, comme je vais essayer de le montrer cet après-midi, les signes s'accumulant, il va arriver un moment où ils diront, ça y est, alors il y a eu, alors on discute de savoir, il y a une tradition historique qui veut que les chrétiens de Jérusalem aient fui à Péla. Péla, ça se trouvait en Transjordanie. Il fallait aller au-delà du Jourdain. Alors, ça a été discuté. Il y a eu dans des revues récentes des articles pour contester ou pour au contraire appuyer la réalité historique de la fuite à Péla. Mais le point pour moi n'est pas Péla ou pas Péla. Le point pour moi, c'est que les chrétiens ont été suffisamment avertis par Jésus dans... par le discours de Matthieu 24, par exemple, pour quitter Jérusalem à temps. Maintenant, il y en a peut-être quelques-uns qui n'ont pas voulu écouter, qui se seront laissés surprendre. Voilà. Et c'est vrai que... alors, vous voyez la grande différence, c'est que dans un cas, vous avez des signes avertisseurs, tandis que pour l'eschatologie de la grande fin, de la fin avec un F majuscule, vous n'avez pas de signes avertisseurs.
Alors, toujours dans. C'est à propos de cette affaire de signes, là. Donc, parce que au début des actes, juste avant l'ascension, donc ils sont tous réunis et demandent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Alors, est-ce que là. Il fait allusion justement à cette eschatologie d'après, ou est-ce qu'il fait allusion à l'eschatologie, disons plus ou moins directe, compte tenu du fait qu'en fait en Matthieu 24, au verset 33, donc qui est dans la partie eschatologie juste à venir en 70, Jésus dit, de même vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que, alors dans nos Bibles, on a le Fils de l'homme, entre parenthèses, est proche à la porte. Or, si la parenthèse est bonne, ça ne tient pas vraiment debout. Je veux dire, parce qu'en 70, au niveau du comportement du Christ, il ne s'est pas passé quelque chose de particulier, à ma connaissance.
Bonne question. Mais je ne réponds pas tout de suite, parce que c'est aussi cet après-midi que je vais toucher le point. Parce qu'il y a les sept signes annonciateurs. Mais il va y avoir après... le signe du Fils de l'homme dans le ciel.
Ça, c'est Daniel 7, 13.
Quoi?
C'est ce que dont Chilton parle dans Daniel 7, 13.
Voilà.
Le fils,
c'est ça.
Le
signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors, je crois, si vous voulez, que c'est à cela, que c'est de ça dont on peut parler vraiment d'un signe donné par le Christ, qui est au ciel, qui est céleste, va donner. Le signe décisif qu'est précisément, à mon sens, la destruction du temple. Alors, il y a les signes, il y a sept signes annonciateurs, et en plus, il y a le signe du Fils de l'homme dans le ciel, mais avant que ne parvienne, que n'arrive la réalisation du signe du Fils de l'homme dans le ciel, alors c'est intéressant parce que le texte grec, n'est-ce pas, a exactement cet ordre des mots. Hein. Le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Tandis que d'aucuns ont fait une chose, ils disent le signe dans le ciel du Fils de l'homme. Vous oublierez que c'est pas. Mais quand même, c'est curieux, pourquoi vouloir tout à coup accorder dans le ciel à signe, alors que dans le texte grec, dans le ciel est avec le Fils de l'homme. Alors. Nous en parlerons. C'est pour ça que je vous demande à tous les deux là, d'attendre la réponse là.
Mais pour acte, vous le traiterez aussi tout à l'heure.
Non, non, je vois pas où est le problème là pour acte. Parce que c'est acte 1.
Oui, c'est ça.
Oui. Je vois pas. Parce que les disciples demandent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Or, de toute façon, Il n'est pas question de rétablir le royaume de Dieu pour Israël. Je veux dire, c'est une question des disciples.
Oui, tout à fait. Mais la réponse de...
Et alors, Jésus répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je ne crois pas non plus qu'il faille là vouloir parler de la première ou de la seconde eschatologie. Je crois que là, Jésus dit, vous savez, il y a des temps et des moments que Dieu a fixés. Hein, et c'est pas à nous de choisir. Mais alors, l'important pour moi, la pointe, c'est vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense que je ne vois pas là où est abordée par Jésus la question de l'une ou de l'autre des eschatologies. Je ne pense pas. Jésus parle de l'immédiat. Il dit, ce qui va se passer, en tout cas ce que je peux vous dire qui va se passer, c'est que dans quelques jours, c'est juste avant l'ascension, donc pratiquement dans une dizaine de jours, hein, vous allez recevoir l'Esprit Saint et vous serez mes témoins. Alors là, ça rejoint d'ailleurs, cette parole est en lien avec la fin de Matthieu. Au fond, ça, si vous voulez, on peut rapprocher ce que dit Jésus-Christ dans l'ordre missionnaire à la fin de Matthieu et ce qu'il redit au fond ou dit légèrement autrement dans le verset 8 d'acte 1.
Qu'est-ce que vous pensez des chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains sur la conversion finale d'Israël? Est-ce qu'il n'y a pas un signe?
Alors là, je vous dirais que je suis un homme perplexe sur ce point. Jusqu'à présent, j'ai pensé que l'allusion était faite là à une conversion d'Israël dans un avenir lointain. Je ne dis pas à la fin du monde, parce que quand même, Jésus dit bien que cette conversion d'Israël sera pour l'Église comme une résurrection des morts. Hein. Bon. Donc, il peut y avoir encore longtemps après. Bon, mais je vais vous dire pourquoi je suis perplexe. C'est que là, justement, je veux creuser la chose. Parce que j'ai été interpellé il y a quelques mois par ce que dit Van der Waal. Parce que pour lui, il attribue ce que Paul écrit aux Romains dans les chapitres 9 à 11, il envoie la réalisation aussi avant 70. Bon, alors, quand j'ai été interpellé, parce que ça détruisait tout ce que je pensais jusqu'à présent. Hein? Bon, alors, c'est pour ça, moi, en ce moment, je suis en train de réfléchir à ça. Et alors, ce qui m'a étonné, c'est que Jim Jordan, dont vous connaissez le nom sans doute, qui est un réformé américain, c'est le directeur de Biblical Horizons. Non, ça ne vous dit rien.
Moi, je le connais de nom, mais
j'ai
lu une lettre de lui, mais pas très gentille. Mais...
Oui, oh, mais il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent avoir fort mauvais caractère. Et je suis assez de votre avis. Moi, ce que j'ai lu, là, c'était dans Calvinisme. Alors, non, bien pas. Mais indépendamment du caractère de Jim Jordan, j'ai été étonné de voir que Jordan, à la suite de sa lecture de Van der Waal, se pose la question. Alors je me dis, ben, au fond, pourquoi est-ce que je n'étudierais pas la chose de nouveau, hein? Parce que je crois quand même qu'il ne faut pas se bloquer. Alors j'ai beau être très avancé en âge, j'essaye de ne pas me bloquer dans mes idées d'il y a 10 ou 50 ans. Oui. Mais jusqu'à présent, moi j'avais toujours vu la conversion d'Israël comme une chose qui devait arriver dans un futur plus ou moins lointain, mais pas du tout, en tout cas, comme des chapitres se rapportant à des événements déjà passés.
Parce que c'est vrai que les gens, par exemple, comme Shelton, le maintiennent encore dans un avenir lointain, quelque chose de massif, bon, qui peut-être, parce qu'on voit, parce qu'il y a aussi une interprétation qui veut que ça se fait progressivement, sans forcément un mouvement massif à un moment donné, mais ça se fait progressivement, dont Paul serait justement un des exemples, puisque lui, juif, passe devenant...
L'un des bons commentaires, enfin à mon sens c'est un des meilleurs commentaires sur la lettre aux Romains, c'est celui de John Murray, Il a fait deux volumes de commentaires sur les Romains. Et alors, je viens de relire, à cause de ça, je viens de relire ce qu'il dit des chapitres 20 à 11. Et lui va tout à fait dans le sens de Chilton. C'est-à-dire, c'est une interprétation assez classique parmi les réformés. À mon sens, c'est par exemple l'interprétation de Riederbos dans La venue du royaume et dans son livre sur Paul. Donc, si vous voulez, Riederbos et John Murray vont, me semble-t-il, dans un sens analogue, et c'est le sens dans lequel, personnellement, j'ai pris les choses jusqu'à présent, et que peut-être je continuerai dans ce sens. Mais je veux simplement réexaminer la question. Tu sais, je vais faire comme les chrétiens de Béret, je vais ouvrir ma Bible, et puis je vais essayer de... Vous savez, il y a des domaines comme ça, où c'est très difficile d'être...
affirmatif.
Oui, il faut essayer d'écouter les uns, d'écouter les autres. Et d'ailleurs, il faut toujours s'écouter les uns les autres.
Surtout avec le Pax sur la réintégration. C'est un Pax
sur le
testament, alors on n'est pas beaucoup éclairé aussi.
L'apocatastasis.
Ouais.
Ouais. Non, mais de toute façon, je vous recommande la lecture de ce petit livre. D'ailleurs, c'est un livre inachevé. Vous savez, un petit peu, Pascal avait écrit les pensées en vue d'écrire un grand traité d'apologétique, et j'ai l'impression que sur cette question de l'évangile alliantiel, Van der Waal avait le projet d'un livre assez important. Et d'ailleurs, l'éditeur... Le dit à un moment donné, je suis tombé sur la page, il dit, l'auteur n'a pas complété cette section. Alors on arrive à un titre, l'alliance avec David, vassal de Yahvé, et il n'y a rien. Mais je ne crois pas que ce soit le seul endroit. Donc c'est un livre inachevé. Alors il est mort, dont j'ai appris là qu'il était mort en 1980, et je pense que c'était un livre en chantier. C'est un livre en chantier. Alors, mais c'est un livre très excitant. Vous verrez en le lisant, on est pointé, hein, on est aiguillonné. C'est un livre très intéressant. Et je pense qu'il oblige à reprendre une bonne réflexion. C'est comme il montre une chose intéressante. Souvent, on a dit que c'était la suite d'un certain nombre de travaux sur les peuples anciens du Moyen-Orient, que l'idée des différents points de l'Alliance aurait commencé à se faire jour. Voyez. Et alors, c'est intéressant parce que Van der Waal montre, par une très longue exégèse, que pas du tout, que dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il s'agit d'alliance, que ce soit d'alliance entre individus, d'alliance entre peuples, ou de l'alliance entre Dieu et son... Déjà, il y a les points principaux. Alors, Van der Waal, c'est intéressant, au fond, dit, faut pas croire du tout que tout à coup, l'archéologie ou les sciences historiques anciennes du Moyen-Orient ont découvert quelque chose que nous ignorions. Peut-être que nous l'ignorions, mais en fait, l'Ancien Testament nous présentait déjà exactement tout ça. Oui. Si bien que l'idée, il ne le dit pas explicitement, mais je pense que l'idée qu'a Van der Waal, c'est qu'au fond, c'est plutôt les traités d'alliance entre les hommes ou entre les nations qui sont plus ou moins en réplique ou en imitation de l'alliance dans le sens de ce que Dieu nous révèle à son sujet. Vous voyez ? Il inverserait un peu les... Enfin, je vous dis, c'est un livre que j'ai trouvé très excitant, et tous les gens à qui je l'ai fait lire, parce que je l'ai fait lire quand même à quelques-uns déjà, ils ont tous été comme moi, même si sur des points ils ne sont pas convaincus, et même en opposition avec ce que dit Van der Waal, ça n'a pas d'importance. Et ils ont trouvé que ça les poussait à la réflexion, ça les poussait à relire certains chapitres ou certains livres de leur Bible, alors ça vaut la peine.
Vous pouvez préciser qui est Van der Waal ?
Ben non, je n'en sais que ce qu'on dit ici. J'ai l'impression que... son grand livre, enfin la traduction qu'on a fait, que nous avons là en anglais, s'appelle Search Scriptures.
Ça, c'est assez succinct.
Comment ?
C'est succinct.
Oh, c'est très succinct. C'est un livre plutôt élémentaire.
Son grand livre, c'est son commentaire de Apocalypse. Ah. Et je pense c'est lui qui aussi pense que l'Apocalypse est avant 70. Ah. Et ça avant bouleversé toutes les choses chez nous.
Et est-ce que vous savez quelle était sa nationalité? Parce que là, vous voyez, on nous dit qu'il est mort en 1980 en Afrique du Sud. Oui. Hein. Alors, est-ce que c'est un Africain du Sud d'origine néerlandaise ou bien est-ce que c'est un Néerlandais à qui il est arrivé de mourir en Afrique du Sud? Parce que je ne sais rien.
Il est Néerlandais, mais peut-être il a tellement long travaillé en Afrique du Sud qu'il a une autre nationalité, mais d'origine...
Il est Hollandais.
Oui, oui. Oui.
Mais il était professeur à Campagne, il était quoi?
Peut-être en Afrique.
Parce que c'est vrai qu'on est, on aimerait bien savoir qui est qui. Hein, et là-dedans, on ne nous dit rien. On nous dit, je vous dis, on mentionne simplement une autre de ses œuvres, là. On ne nous mentionne pas d'ailleurs le commentaire dont vous parlez. Voilà. Alors, si jamais, ce serait intéressant, si jamais vous pouvez avoir quelques tuyaux, quelques renseignements sur lui, est-ce qu'il a enseigné quelque chose? On ne nous dit même pas, a-t-il été pasteur ou a-t-il été toujours une sorte de théologien plus ou moins allant d'un pays à l'autre? Parce qu'il me semble qu'il a été à un moment donné, il semble qu'il dit qu'il a été en Grande-Bretagne, je ne sais pas. C'est très succinct, on ne nous dit pas grand-chose de lui.
Monsieur Jean-Marc Bertou doit le savoir, parce qu'il m'en avait parlé de ce livre, et il m'avait dit qui était le personnage, mais je m'en souviens plus.
Oui, d'ailleurs, ça a été amusant à propos de Jean-Marc Bertou, donc, qui est le frère de Pierre Bertou. Un jour, je décroche mon téléphone pour parler à Jean-Marc Bertou de ce livre. Et la première parole qu'il me dit, ah, vous savez, il y a un livre qu'il faut que vous lisiez. Je lui dis, vous allez me le dire et moi je vais vous dire un livre aussi qu'il faut lire. Et nous parlions tous les deux, nous venions de finir tous les deux de lire ça. Alors ça m'a amusé parce qu'il avait l'idée de me faire lire ce livre et moi j'avais l'idée de le lui faire lire. Et ça s'est trouvé ensemble dans notre entretien téléphonique. Ah, oui.
Et on peut le commander, ce livre, parce que...
Oh. Pas
mais édition, ACBD, AGCB, parce que moi,
Monsieur West... Où est-ce qu'on peut? Alors, expliquez-moi. Moi, je voudrais bien savoir. Moi, vous savez comment je fais mes commandes? Je fais une lettre à William Edgar. Parce que l'intérêt de William Edgar, c'est qu'il a, sur tous les livres qu'il commande, il a, je crois, 30% de réduction. Et ce qui me coûte cher, ce qui me remplace presque les 30%, c'est le port. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est si on me donne un meilleur tuyau que de passer par William Edgar, moi, William Edgar, d'ailleurs, ne tient pas du tout. C'est par gentillesse et amitié qui me rend le service de m'envoyer les livres que je lui demande. Mais s'il y a un meilleur moyen, et vous me l'indiquez, moi, je serais tout prêt à l'adopter.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas si c'est peut-être pas au niveau de l'argent, c'est peut-être pas un meilleur moyen. Mais bon, par exemple, M. Wells, une fois, me l'avait demandé. À l'époque, Kerygma, on n'avait pas encore repris vraiment les choses en main. Et c'était par, vous savez, il y a deux catalogues de commandes qu'on peut faire. Je crois que c'était GCB. Ouais. Mais au niveau du prix, ça revient pratiquement au prix normal, hein, avec le port, etc. Mais moi, je l'avais commandé par ce moyen pour quand c'était pour M. Wells. Bon, moi, je l'avais reçu chez moi. Bon, après, je lui avais donné, mais... C'est par ce moyen, mais au niveau du prix, ça revient au prix.
Oui, mais j'y sais bien, ils font déjà un prix, de toute façon.
Eux, ils font un prix, mais il y a le port, effectivement.
Oui, mais quand même.
Mais ça revient à peu près au prix normal.
Au prix normal.
Quelques fois, c'est quand même moins cher.
Port compris, ça revient au prix normal.
Oui, en tout cas, c'est rarement plus cher. Moi, pour l'instant, c'est jamais plus cher. Et c'est plutôt même un peu en dessous. Mais comme maintenant, avec Kerygma, on a quand même beaucoup plus de réductions que même ces catalogues. Mais l'avantage, c'est que quand on n'est pas avec Kerygma, quand on n'est pas à Kerygma, on peut quand même l'utiliser. C'est un système d'abonnement, on paye plein de bleus, et puis on paye une année, je passe 100 francs, et après on paye plus si on achète des livres dans l'année.
Mais au séminaire de Campen, je veux dire, on s'entretient de ces questions, je veux dire, soulevées par Van der Waal ou autre?
Non, parce que Van der Waal est un peu vu comme l'enfant terrible. Moi, ça, c'est une question intérieure.
Et c'est un enfant terrible. Mais vous savez, il y a toujours des enfants terribles. Il y a un... Je le signalais, j'en parlais à l'un d'entre vous, je ne me souviens plus à qui, vient de paraître en anglais, mais si tu traduis du hollandais, une sorte de vie, plus que la vie. On expose la situation aussi, disons, plus de l'unité d'Église, à propos de Klaus Schilder. Hein? Et c'est tragique, au fond, cette histoire de Schilder. Parce que, si j'ai bien compris, vous allez me corriger si je me trompe, mais il semble, d'après ce livre, que je n'ai pas lu encore, mais j'ai lu un compte-rendu assez détaillé de ce livre, Schilder a été convoqué à un synode des églises réformées vers la fin de la guerre. C'était un synode qui aurait été présidé par Berkauer. Et ce synode aurait condamné par défaut, puisqu'il n'était pas là, Schilder. Or, Schilder ne pouvait pas venir à ce synode parce qu'il était plus ou moins, il vivait d'une manière plus ou moins cachée par rapport aux autorités allemandes. Hein? Si bien que s'il était venu à ce synode, ça veut dire que les Allemands pouvaient l'arrêter à la sortie du synode. C'est vrai, ça?
Ouais.
Mais c'est bien ça.
Non, pas bien.
Comment? Non, mais je veux dire, c'est historique, ça. Ça s'est passé comme ça.
Oui, mais c'est une longue histoire, très compliquée.
Non, mais Schilder, je disais ça pourquoi? Parce que aux yeux d'un certain nombre, Schilder était un enfant terrible.
Ouais.
Hein? Non, je veux dire par là que quelquefois, les enfants terribles ont quelque chose à dire.
On dit soit c'est compliqué, soit c'est une question intérieure.
Il faudrait que vous nous fassiez un exposé sur Schilder. Parce que c'est quand même, et c'est lui qui est à l'origine des églises réformées libérées, non?
Ouais.
Ouais. Hein? C'est à partir de là que les églises libérées ont commencé. Non?
Oui.
C'est un mystère encore.
On désire formuler un peu autre, mais.
Est-ce que vous signez une charte avant de partir, quand même, comme quand vous vous engagez sous le sceau du secret, interdit de dire l'état d'estime.
En tout cas, moi, je n'ai pas lu grand-chose de Schilder, mais j'ai quand même lu sa trilogie dont je vous parlais hier. J'ai lu son Christ et la culture, et j'ai lu aussi, c'est pas une traduction anglaise, c'est un résumé en anglais de son Qu'est-ce que le ciel. Voilà. Mais je n'ai pas lu plus que cela. Mais il m'a beaucoup impressionné, Schilder. M'a beaucoup impressionné. En particulier, il a tout à fait renouvelé ma pensée au sujet de la grâce générale.
Oui, ben c'était son... Comment dire, dada, oui.
Son dada.
Ouais.
Voilà.
Oh. Oui, grâce commune en général. Il faut un peu penser à ça. Au moment que vous avez parlé de l'alliance de grâce et des œuvres, je pense que Schilder, il peut très nettement définir ce terme et aussi le terme grâce. Quand peut-on parler de grâce?
C'est ça, oui. Non, mais ça, je suis convaincu que trop souvent, comme je le disais tout à l'heure, on s'achoppe sur les mots que l'autre emploie sans trop voir en quel sens il les emploie. Et l'intéressant dans un entretien, c'est toujours d'essayer de bien comprendre le sens que votre interlocuteur donne aux mots qu'il emploie. Parce qu'on s'aperçoit quelquefois qu'on n'emploie pas les mêmes mots, mais qu'on dit la même chose, qu'on est d'accord sur la même chose. Et inversement, on peut employer les mêmes mots, et puis en réalité, ne pas être d'accord.
Ça arrive souvent dans des tribunes publiques.
Ouais.
Si on invite quelques personnages de discuter de ces trucs, ils sont toujours d'accord. Ça c'est frappant.
Surtout s'il y a la télé.
Ouais. Ouais, bon, c'est un débat.
Alors je vous dis à cet après-midi.